Vivre FM podcast. De 10h à 11h, la santé mentale en question, Anne Voileau.
Je reçois Michel Jean-Baptiste, avocate, écrivain, à l'anime des masterclass et des ateliers consacrés au développement de projets. Aujourd'hui, elle vient nous présenter son livre « Mes bonnes résolutions en action, 10 semaines pour y arriver ». Son 10e livre, paru aux éditions Fortuna. Elle nous rassure aussi sur nos faiblesses humaines et nous aide, à travers les chapitres, à construire les étapes pour tenir et faire aboutir nos bonnes résolutions, avec des conseils et des bilans que nous devons réaliser nous-mêmes. Elle nous raconte son parcours, ses difficultés et parfois ses doutes qui lui permettent d'avancer. Restez avec Michel, c'est un plaisir. Michel Jean-Baptiste, bonjour. Alors, comme je vous disais, vous êtes charmante jeune femme. Donc, Michel, c'est votre prénom.
Oui, Michel avec deux L.
Voilà. Et vous êtes avocate, enseignante, enfin, vous faites plein de choses, hein, auteur de livres. Oui. Là, aujourd'hui, vous venez pour Mes bonnes résolutions en action, 10 semaines pour y arriver. Mais moi, j'aimerais bien aussi vous connaître un peu mieux parce que vous êtes avocate.
Avec plaisir.
Le handicap, ça vous intéresse parce que ce n'est pas par hasard que vous venez nous voir.
Oui.
Donc, racontez-moi un peu votre vie.
Alors, ma vie, on va essayer de faire court quand même, parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors, si on a le temps, j'ai commencé donc moi, en fait, par des études de droit. C'est une vraie vocation au départ. Hein. Je ne suis pas arrivée là par hasard.
Avec non, c'était votre choix.
C'était mon choix, un choix que j'ai pris toute petite fille.
Parce que
je trouvais ça génial, l'idée de pouvoir défendre des gens et de leur apporter, en fait, des informations. Enfin, voilà, cette démarche-là.
Les aider.
Voilà, les aider dans cette démarche-là. Donc, j'ai cette casquette d'avocate spécialisée en entrepreneuriat. J'accompagne des porteurs de projets qui veulent créer leur entreprise. J'accompagne des entreprises plus grosses aussi, enfin un petit peu de différents profils.
Et c'est intéressant, les gens qui veulent créer une entreprise.
Oui.
Vous les aidez au départ, c'est bien.
Ouais. Oui, en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'accompagner la création. Donc, au plus tôt, à la limite, je vais accompagner mon client, au mieux, je vais me porter. Parce que c'est un petit peu comme faire du jardinage. On participe à la mise en terre de la petite graine et puis on suit...
Et vous pouvez aussi aider à gagner du temps. Parce que si je vous avais connu quand j'ai créé la revue Être, j'aurais été plus vite, sûrement.
Peut-être.
Sûrement, si, parce qu'on ne connaît pas tout et surtout juridiquement.
Oui, c'est vrai que quand on connaît les bonnes pistes et les bons conseils, ça peut faire vraiment gagner beaucoup de temps.
J'en suis sûre.
Et beaucoup d'énergie. Donc voilà, cette première casquette, donc avocate dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et puis une deuxième casquette, j'enseigne aussi alors le droit, la négociation, le développement de réseaux d'affaires et de réseaux aussi professionnels et personnels dans plusieurs écoles. Des écoles de commerce, alors le SCP, l'ISC Paris, PSB, enfin plein d'écoles. Des écoles d'ingénieurs, parce que j'aime beaucoup les profils ingénieurs. On apprend beaucoup de choses à leur contact. En fait, quand on est prof, on apprend autant de ses étudiants, je pense que...
Je pense que quand on est à l'écoute, on sait être à l'écoute, c'est sûr. Heureusement, c'est un partage
quand même. C'est un super échange, en fait. C'est fabuleux. Et puis dans des écoles plus orientées sur l'art, l'école des Gobelins, l'école de l'image, des choses comme ça. Et même l'école de gastronomie Ferrandi, où là, j'accompagne des étudiants qui sont en bachelor restauration, donc qui se destinent à être restaurateurs ou cuisiniers. Là aussi, c'est de la création, mais sur un autre pan que celui du e-business ou de l'Internet.
Voilà. Alors, c'est vrai que vous donnez des cours et puis quelques étudiants donc, peuvent venir vous voir en disant « J'ai envie de monter mon entreprise, aidez-moi ».
Oui.
Alors, vous êtes débordée.
C'est ça. Je suis complètement débordée.
On verra quelle bonne résolution vous avez prise en 2016.
Voilà, exactement. Alors, tout à fait débordée. C'est d'ailleurs comme ça aussi qu'en parallèle, j'ai écrit des ouvrages parce que ça me permettait de créer la synthèse, en fait, entre ce que je faisais dans le conseil, ce que je faisais auprès de mes étudiants. En fait, mon tout premier bouquin, il est sorti en 97. C'était mon sujet de mémoire de DEA. Sur la création e-business, donc la création de l'Internet, c'était tout premier livre. Et puis ensuite, j'ai écrit d'autres ouvrages, alors orientés sur le marketing online avec mon frère Philippe en 2008 chez Erol, un autre sur les réseaux chez Larousse avec Hervé, un autre en collectif chez Nathan, enfin plein de bouquins.
En fait, ça faisait peut-être aussi plus facile de dire aux gens, vous avez un problème là, déjà lisez mon livre et on aura gagné du temps.
Même pas.
Alors
d'ailleurs, mon frère qui est dans le marketing me dit souvent que je ne fais pas assez de pubs. Et il peut arriver que je donne des cours à mes étudiants sans leur dire en fait que j'ai écrit les bouquins en rapport. Et c'est plus ceux qui viennent me voir à l'interco en disant « Oh, on a été voir sur Internet. »
C'est dommage quand même parce que ça peut les faire avancer plus vite.
Oui, mais en fait, j'y pense pas forcément spontanément parce que je suis dans une approche au cas par cas quand j'interviens dans le cadre des cours ou dans le cadre des sessions aussi de coaching et d'accompagnement en incubateur ou en pépinière. Donc, je suis très focus, je suis très orientée sur le projet. Et bon, voilà. Donc après, ouais, ils le savent de toute façon.
Mais votre frère a peut-être pas tort.
Oui, je crois qu'il a raison. Ça fait partie des bonnes résolutions 2016 en ce qui me concerne, faire peut-être un petit peu plus de marketing. Mais bon, bon voilà, c'est pas la démarche. Et en fait, en 2014, ce qui s'est passé, c'est que, enfin 2013 pour être précise, j'ai eu dans ma vie toute une série de choses, parce que quand on dit présentez-vous, souvent on se présente sous l'angle professionnel, mais on n'est pas que des travailleurs, entre guillemets. Hein. On est aussi des personnes avec une famille, avec, voilà.
Vous êtes entouré d'hommes, si j'ai bien compris, un fils, un mari, voilà,
voilà,
un frère.
Voilà. Et de femmes, beaucoup. Et ma maman, ma grand-mère à l'époque. Et justement, cette période, j'ai eu la... En fait, c'est en 2010, là, vraiment, il y a eu un basculement très, très important avec la mort de ma grand-mère, qui est une femme très, très importante pour moi.
Qui vous a enseigné beaucoup de choses.
Oui. Oui, 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 c'est mon modèle, et je le dis au présent parce que ça reste mon modèle.
Bah oui.
Voilà, exactement.
C'est elle quand même.
Voilà,
oui,
c'était, c'est et ce sera. Et ce sera mon modèle toujours. Et en fait, elle est décédée, et dans le même temps, le même mois, en fait, à un mois d'intervalle, j'ai ma belle-maman qui, elle, a été diagnostiquée Alzheimer, et donc que j'ai récupérée à la maison. En même temps, c'était l'année du bac de mon fils. Donc, c'était un peu chaud, on va dire, en termes d'organisation. Ouais. Et beaucoup de gens autour de moi, alors ça peut être mes clients, mes partenaires, les colocataires du local que j'occupais à l'époque, etc., m'ont dit, mais comment tu fais pour tout faire? Parce que tu sors tes bouquins, tu donnes tes cours,
ah oui,
tu es dans le milieu associatif.
Oui, c'est une bonne question.
Voilà. Et en fait, moi, je me contentais de répondre, bah, je jongle.
Ben oui.
En fait, je jongle.
Je vais toujours au plus pressé.
Voilà. En fait, on fait ce qu'on peut,
oui,
etc.
On y arrive.
Et puis, je me suis rendu compte qu'au final, j'avais déployé... par nécessité, toute une série d'astuces, une série d'outils, et que finalement, ces outils et ces astuces, je pouvais les partager. Et j'ai commencé à écrire, alors ça, dans l'intervalle, mais c'est sorti en 2014, un bouquin qui s'intitulait « Vie pro, vie perso, le cocktail gagnant ». C'est parti comme ça, en fait.
Ah oui, voilà.
Donc voilà. Et puis, de fil en aiguille... les lecteurs, les lectrices, enfin toutes les personnes qui m'entourent, me disaient « Ah, mais tu sais, ton truc, c'est super. Pareil, tu prends des bonnes résolutions. À chaque fois que tu dis que tu en prends une, tu la tiens. Comment tu fais ?» Donc voilà, moi, mes livres, ça part toujours d'une question.
De votre vie, en fait.
Puis surtout d'une demande de quelqu'un autour de moi qui me dit « Ah, mais tu sais, ça, tu devrais le dire. » Ou j'aimerais en savoir plus. Ou par exemple, dans le cadre des ateliers, parce que j'anime aussi des ateliers, des masterclass. C'est toujours à la demande de la personne ou des personnes qui m'entourent qui me disent « Mais tu pourrais pas nous faire un truc là sur la gestion du temps parce que nous, on croule. »
Oui, non, mais c'est
et donc,
vrai
c'est
que
venu comme ça.
C'est important plutôt de répondre à une demande plutôt que de créer un manque. Vous répondez à la demande.
C'est ça.
Bon, parce qu'il y a les deux façons de faire.
Exactement. Et donc, l'idée là, donc sur ce dernier petit livre, c'est un petit livre rouge.
Alors, c'est bien parce qu'on peut l'emporter un peu partout.
C'est fait pour, en fait.
Bon, bah oui, j'ai bien compris, mais c'est très bien.
Oui, c'est fait pour parce que je me dis souvent qu'on n'a pas le temps, justement. Et on a envie de suivre un peu une méthode ou trouver des conseils et des astuces. Et s'il faut emmener le gros bouquin très lourd, bon, déjà, c'est compliqué. Alors que si on a un petit livre facile...
Non, mais là, on peut le mettre dans la poche. C'est plus petit qu'un livre de poche. Et on peut
oui,
le mettre
c'est
dans
un
la mini-poche.
Poche.
Et on peut... On a 10 minutes dans le métro ou dans le train. On le regarde facilement.
Alors, sachant qu'en plus, j'ai écrit... comme beaucoup de mes livres, d'ailleurs, sont beaucoup écrits dans les transports en commun.
Voilà. Donc, on peut le lire
donc,
aussi.
Donc, c'est un retour. Voilà, c'est un retour des choses.
Un juste retour.
Voilà. Du coup, c'est très pratique. On l'a entre les mains. C'est facile. Et puis, on peut gribouiller... on peut annoter,
ah
bah on peut prendre un autre petit carnet en plus.
Ah non, c'est fait exprès d'ailleurs, il y a de la place pour écrire.
Oui, il y a de la place pour écrire, mais si on a une tendance, moi c'est un peu ma tendance personnelle à écrire peut-être plus que ce qu'il y a comme place disponible, on peut mettre en place son propre petit carnet, d'ailleurs je recommande dans le bouquin, en disant prenez-vous, choisissez-vous à un moment donné votre petit carnet perso, comme l'autre est très léger et pas très encombrant, vous aurez deux petits carnets.
On peut avoir deux petits carnets sans
et
problème.
Et puis on s'approprie son petit carnet pour justement prendre ses bonnes résolutions et les tenir. Et se dire qu'une bonne résolution, ce n'est pas forcément quelque chose d'ambitieux, quelque chose d'impossible.
Alors vous, quand vous étiez débordée, vous aviez des bonnes résolutions?
Oui. J'en ai toujours. D'ailleurs, je prends des bonnes résolutions très régulièrement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, il y a le phénomène culturel de la bonne résolution. C'est le nouvel an.
C'est janvier, voilà.
Ou alors ça correspond aussi à des événements de sa vie. Par exemple, un anniversaire. On vient de fêter un anniversaire et là, on se dit, allez, hop, ça y est. J'avais toujours rêvé, par exemple, de faire du kung-fu. Je vais me mettre au kung-fu. Moi, c'était ma bonne résolution 2016. J'ai pris mon premier cours de kung-fu la semaine dernière. Je me suis fait une grosse déchirure musculaire. Donc, je suis en arrêt. Je suis en arrêt de sport pendant 3 semaines parce que j'y suis allée super fort. Et justement, je parle aussi de ça dans le bouquin, c'est-à-dire quand on a pris la décision et puis qu'on peut avoir un retard, un loupé, quelque chose.
De faire tout de suite.
Voilà.
Ça
et
marche
là,
jamais, de toute façon.
Ça marche jamais. Et là, en l'occurrence, de pas s'écrouler en se disant « mince, alors, dès le premier cours, c'est bon, j'enchaîne par déjà un truc qui fait que je vais pas pouvoir y aller là. » Bah, normalement, là, ce soir,
c'était
le deuxième cours.
Peut-être un accès manqué.
Ah, peut-être, qui sait. Alors, je pense que j'y suis allée trop fort, en fait. C'est le hasard de la vie, en fait. Je savais pas du tout que dans le cadre de cette session, il y aurait des personnes beaucoup plus avancées qui préparaient une compétition. Et ça, moi, je ne l'ai pas su. Et donc, j'ai essayé de faire comme les autres, hein, ceux qui étaient à côté de moi, sauf qu'ils avaient 8 ou 9 ans de kung-fu, et que moi, j'en étais à mon premier cours.
Alors, on peut dire aussi, dans les bonnes religions, il faut être raisonnable aussi.
Voilà. Et c'est se dire que c'est dans cette démarche-là que j'écris, d'ailleurs, toujours en disant, on n'est pas des Superman ou des Wonder Woman, on a tous nos limites. Et ça fait beaucoup sourire. Alors moi, je suis assez contente parce que je me suis dit, ça va faire l'objet d'une prochaine chronique, mes aventures au kung-fu.
Ben oui.
Et puis, ça permet d'échanger aussi sur comment on rebondit et effectivement, comment on peut analyser ce truc-là. On peut l'analyser de différentes façons. On peut se dire, effectivement, c'est un acte manqué. Peut-être que le kung-fu, c'est pas fait pour moi. Peut-être que c'est
possible.
Plus le qigong ou quelque chose de plus doux, peut-être.
Le tai chi.
Ou bien peut-être que je ne m'y suis pas prise de la bonne façon. Peut-être que je ne m'y étais pas suffisamment préparée. Alors que dans le livre, je dis justement qu'il faut bien s'y préparer. Et là, peut-être que je ne m'étais pas suffisamment renseignée sur ce que ça représentait de faire ce sport.
Ça, c'est important comme exemple.
C'est très important. Et de voir qu'on apprend finalement, même quand on a les astuces, et c'est toujours de se dire, mais finalement, quand un truc a moyennement fonctionné, bon, ceci dit, il a bien fonctionné, dans le sens où j'y suis allée. Ça, c'est quand même le premier pas.
Voilà,
j'y suis allée. Après, comment je vais faire pour analyser ce qui s'est passé. Et en fait, dans le bouquin aussi, j'explique
ça. C'est important.
Quelle que soit
la résolution qu'on prend, il faut savoir l'analyser, savoir si c'est vraiment ce qu'on veut ou si c'était un rêve, si ça correspond vraiment à ce dont on rêvait aussi. Parce que c'est
exactement ça. Et d'ailleurs, dans le livre, je pars sur un... Parce qu'en fait, ça s'organise sur 10 semaines. Alors, ce n'est pas 10 semaines pour arriver à tenir sa bonne résolution, parce que tout dépend de la bonne résolution. Hein. Si ma bonne résolution, c'est d'être bilingue français-chinois, on peut commencer, mais se dire bilingue dans un an, là, non, faut être réaliste.
Ou alors vous allez vivre en Chine, c'est possible si vous allez vivre
mais
là-bas.
Mais même en vivant là-bas, être parfaitement bilingue, non, peut-être on sera un peu chinois courant, mais peut-être pas forcément bilingue. Mais du coup, c'est effectivement donc sur ces 10 semaines-là de se dire on va se mettre dans le bain. Et ce qui est assez sympathique, c'est que si on commence maintenant, grosso modo, ça va nous amener dans la période du printemps, qui est une période très favorable pour vraiment s'y mettre, parce que là, il fait beau.
Et puis, pour voir si c'est
vraiment...
plein de
choses. Voilà.
On va faire une pause musicale.
Avec plaisir.
Et puis, on se retrouve tout de suite après dans nos bonnes résolutions.
Oui, à tout de suite.
De 10h à 11h, la santé mentale en question, avec Anne Voileau.
Michel Jean-Baptiste, donc on est sur les bonnes résolutions. Alors vous avez comme ça, début janvier, dire « Allez, je vais faire du kung-fu, pourquoi pas ?» Mais est-ce que vous recommandez aussi de faire la différence entre le rêve et la réalité? Alors comment? C'était peut-être un peu un rêve quand même.
Alors c'était justement un rêve hongkongais. C'était en fait un mix. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette bonne résolution, c'était plus une bonne résolution de découverte et d'essai. Plus que de dire j'ai envie de devenir championne de kung-fu quand même. C'était pas ça l'objectif. Mais l'objectif, c'était pas tout d'un coup en janvier. Ça fait plusieurs années que le kung-fu, je me dis j'aimerais bien voir comment ça se passe. J'aimerais bien prendre un cours de kung-fu.
Donc c'est pas d'un jour.
Donc c'est pas du jour au lendemain. Et effectivement, justement, ce premier cours, qui correspond d'ailleurs à ce que j'appelle le premier pas, la première petite action dans mon livre, c'est ce qui va nous permettre de vérifier que cette résolution, elle correspond à vraiment quelque chose qui a de l'importance pour soi aussi. C'est-à-dire que derrière le kung-fu, il y avait l'idée évidemment du film hongkongais, mais il y avait l'idée aussi de la philosophie du kung-fu.
Au-dessus des bambous.
C'est ça. C'est tout à fait ça.
Se défendre contre son mari.
Bon, je n'ai pas trop à me défendre contre lui, le pauvre. Voilà. mais finalement, c'est effectivement se confronter. Et c'est ça qui est intéressant dans la bonne résolution aussi, c'est qu'une fois qu'on a choisi son objectif, très important, d'abord, on ne choisit pas n'importe comment.
Non,
on choisit
jamais.
Par rapport... Alors, c'est surtout qu'il faut travailler par étapes. La première étape, c'est de se dire qu'est-ce qui compte pour moi aujourd'hui dans différents pans de ma vie. Alors, ça peut être le pan, la partie vie professionnelle, ça peut être la partie vie santé. Et moi, là, c'était sur le domaine vie santé. Je m'étais dit, c'est important pour moi de faire un sport dans lequel je puisse faire travailler tous mes muscles,
etc. Enfin, il y a plus d'où. Il y a le tai chi, ça fait travailler tous les muscles.
Voilà, alors justement, c'est ce qu'on m'a dit. Et peut-être que finalement, le tai chi est peut-être plus adapté à ce que je recherche que le kung-fu.
Ouais, ça me dirait bien.
Mais pour le savoir,
on peut en faire ensemble.
Ah, avec grand plaisir. Et là, pour le coup, il faut le tester. Et c'est ça qui est important aussi, pour justement faire la différence entre la part de rêve, où on s'imagine volant telles les apsaras, les fées chinoises au-dessus de la haie de bambou.
C'est quand même beau.
C'est quand même beau. Et puis après, vous avez tous vos amis qui vous disent « Mais tu sais, Michel, dans les films, ils ont des câbles pour faire ça. »
Ça aide.
Ça aide. Voilà. Et puis, la réalité de cette pratique en se disant « Mais est-ce que ça me procure suffisamment de plaisir? Est-ce que ça m'amène vraiment vers l'objectif poursuivi qui finalement n'est pas tant de faire du kung-fu, mais que de faire une activité sportive,
corps,
etc. Ouais. Qui soit aussi une activité où on fait travailler le mental, beaucoup, la concentration, etc. Est-ce que ça me correspond ou pas? Et pour ça, il faut tester. Et d'ailleurs, un petit peu plus loin dans mon livre sur un autre chapitre, je dis qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, c'est très important aussi, quand on prend une bonne résolution, de vérifier tout au long du process que ça nous correspond vraiment, parce que peut-être qu'effectivement ce sera le tai chi ou le qigong ou autre chose, ou peut-être quelque chose qui n'a rien à voir. Et peut-être que finalement c'est de voir des films de kung fu qui me fait le plus plaisir, oui. Peut-être plus que d'avoir là ma déchirure musculaire qui me fait très mal, peut-être, ou peut-être pas, à voir. Donc je vais retester, c'est-à-dire que là je n'ai pas le droit de faire de sport pendant un mois. Au bout d'un mois, je retournerai au cours, déjà parce que ce sera un deuxième cours, pas avec les autres étudiants qui sont super pros et qui font du kung-fu depuis 9 ans, déjà. Et puis, parce que ça me permettra de valider si j'ai un véritable intérêt, si c'est vraiment profond, ou si c'est juste, effectivement, de
et
l'ordre
parallèlement,
du fantasme.
Et parallèlement, vous n'avez pas envie, par exemple, d'essayer le tai-chi pour comparer? Est-ce qu'on peut,
oui, mais
on
le
peut
parallèle, exactement, exactement. Mais là, compte tenu de la situation, je
non,
sais
là,
que
tout suite, non.
Non, là, tout de suite, voilà, mon médecin préféré que j'embrasse, Marie, qui est une femme extraordinaire. Je lui fais plein de gros bisous à distance. Je sais qu'elle va écouter.
Et Marie, elle vous a pas conseillé le tai chi?
Elle n'était pas au courant, en fait. Elle n'était pas au courant. Elle était au courant après pour voir les dégâts. Mais voilà, effectivement,
oui,
je
oui.
testerai d'autres
c'est
choses en parallèle. Tout à
alors,
fait.
Ce que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est que il y a des chapitres. Alors il y a des chapitres, je me fixe un objectif, bon, ça
oui.
c'est là. Il y a aussi, je peux me faire aider. Enfin, il y a un chapitre
oui.
à chaque fois.
Oui.
Je me félicite, enfin, on va en parler plus dans détail. Et puis, en même temps, vous avez des conseils quand même pour savoir justement ce, que,
oui.
ce qu'on est en train de lire là. Peut-être
oui.
pas foncer tête baissée, peut-être accepter aussi de s'être trompé.
Exactement.
C'est important.
Oui.
Quoi. Mais c'est important dans tous les
secteurs de la vie. C'est important dans tous les secteurs de la vie parce que, évidemment, dans les bonnes résolutions, d'ailleurs, ce que je dis au départ, je dis déjà, choisissez. Vous trois objectifs que vous mettez sur le podium de vos priorités, comme un podium olympique, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Ces trois objectifs dans des domaines de vie différents, et c'est déjà beaucoup. Et une fois qu'on a ces trois objectifs en vue, on va prendre celui qui est sur le podium numéro un et on va commencer par ce podium numéro un. Et là, on va mettre en place les différentes étapes. Et comme dans tout parcours, parce qu'aucun parcours, quoi qu'on en dise, même vu de l'extérieur, quand on a des parcours très successful, on pense que il n'y a pas d'embûche, mais en fait, ça n'existe pas. C'est de se dire, ben, comment je vais faire quand j'aurai des moments de démotivation parce que, par exemple, là, ce qui m'est arrivé, ça pourrait être une démotivation. Bon, en l'occurrence, ça ne l'est pas tant que ça.
Ça me pousse à la réflexion.
Ça me pousse à la réflexion. Et justement, c'est super intéressant. Et souvent, quand on a des retards ou des loupés ou des choses qui ne se font pas exactement comme on avait prévu, ça va nous obliger à travailler les ressorts. Plutôt que d'être dans une logique de « Oh là là, mais alors, pourquoi ça arrive qu'à moi? J'ai pas de chance, etc.
Ouais, »
Ah non, mais là, ça, c'est pas possible, quoi. Il faut travailler la dynamique positive.
Rien.
Déjà, ça sert à rien. Alors moi, je dis souvent, quand il y a des moments comme ça,
fois,
où ça soulage. Voilà, alors j'allais y venir, justement. Mais moi, je me fixe à une date de péremption du ronchonnage.
Marre, voilà.
Voilà, moi, je me dis, t'as le droit de ronchonner 5 minutes, tu mets le chrono.
C'est pas beaucoup, allez.
Ouais, oui, mais comme ça ne m'envahit pas.
Allez.
Ah non, moi, pas une demi-journée, non. Non, 5 minutes, bon, évidemment, on s'y tient pas, aux 5 minutes, donc on fait 10 minutes. Donc on fait 10 minutes. Bah non, parce que finalement, ça n'aide pas.
Ça n'aide soulage, pas, puis après on dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? J'en reste
voilà,
pas là.
Voilà. C'est l'idée que ça va nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes et que c'est notre capacité à rebondir finalement qui va nous apprendre des choses aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bon, bah voilà. Alors ça peut être des freins intérieurs, ça peut être des freins extérieurs. On peut avoir quantité de freins différents. On peut avoir des baisses de motivation.
Tous en
parce
même temps,
que,
d'ailleurs. Hein.
Exactement. Ouais. Bah oui, en règle générale, ça n'arrive pas seul. Ça arrive en lot groupé. On peut avoir autour de soi des gens qui vous démotivent aussi. Donc, ça aussi, il faut y faire attention. Et ça, j'en parle dans le bouquin. Faites attention à qui vous, avec qui vous voulez partager votre bonne résolution, avec qui vous voulez partager votre objectif.
Il y a des jaloux,
objectif.
Des fois aussi. Hein.
Il y a des jaloux, il y a des envieux.
Des bonnes amies.
Voilà, exactement. et puis, des gens aussi qui peuvent tout simplement...
Par
effet miroir, complètement. Ouais. Et en toute bienveillance, pensez vous rendre un service alors qu'ils ne vous rendent pas service, ils sont simplement en train de projeter sur vous leurs besoins ou leurs attentes. Alors ça peut être dans les deux sens, ça peut être dans le sens du découragement ou ça peut être dans le sens de l'encouragement à une pratique. C'est par exemple la bonne copine effectivement qui va vous dire tu devrais te mettre, je ne sais pas moi, à la poterie parce qu'elle, elle adore la poterie alors que vous, ce n'est pas vraiment votre truc. La poterie. Donc, peut-être le tester pour voir si c'est votre truc.
Oui, d'aller un jour avec elle et d'essayer.
D'essayer, mais de ne pas se sentir obligé, de ne pas se sentir tenu. C'est important aussi parce que parfois, par effet d'orgueil ou par effet d'ego,
savoir
dire non, c'est pas évident.
Non.
Et puis, savoir aussi lâcher, effectivement, quand ça ne nous correspond effectivement pas. Là, moi, je vais refaire mon test Kung Fu dans 3 semaines. Si ça ne correspond effectivement pas, je n'aurai aucun scrupule, alors même qu'on pourrait se dire, bah alors, elle en a parlé sur les ondes, à la télé,
mais non,
partout,
justement,
etc.
Ouais.
Justement, non, mais il y a des personnes qui se sentent coincées parce qu'ils ont dit qu'ils feraient quelque chose et qui ont l'impression que c'est un aveu d'échec que d'abandonner, alors qu'en réalité, c'est un choix.
C'est pour ça ce que vous appelez les bilans.
Oh oui, très important.
On fait le bilan. Et puis alors, on peut écrire aussi. Hein, vous avez des petits espaces où on peut effectivement avoir un carnet en plus si on a envie d'écrire beaucoup.
Ça.
Mais c'est important de faire le bilan sans toujours s'auto-condamner.
Oui, très important. Alors, toutes les semaines, en fait, le lecteur ou la lectrice est invité à faire son bilan de la semaine. Et à chaque fois, dans le bilan de la semaine, c'est de travailler aussi sur les points positifs. Parce que ça, je fais confiance à tout un chacun. Moi-même, je fais la même chose. Pour assez spontanément faire un bilan négatif. Alors, je suis nulle, j'ai pas fait, machin. Ça, on sait faire facilement.
C'est très difficile, le bilan positif.
Très, très difficile. Et donc, c'est d'arriver à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui va dans le bon sens en rapport avec ma bonne résolution, mais aussi indépendamment de ma bonne résolution. Parce que parfois, on n'arrive pas à se tenir à certaines choses juste parce qu'on a été pris par le temps ou pris par des actions, des obligations par ailleurs, etc., qui sont finalement très positives, mais qui sont passées complètement à la trappe. Parce que c'est le côté...
Oui, si une amie a besoin de vous et très mal, vous allez faire passer ça avant. Et effectivement, et c'est plutôt bien.
Et c'est plutôt bien. Là, je peux donner un exemple tout bête. Je me suis mise à la sophrologie. Voilà, ça, c'est un truc, c'est le hasard
complet. Après, vous me direz ce à quoi vous n'êtes pas mis, parce que c'est...
Alors oui, plein de choses, justement. Justement. Et ça, il faut le temps. Quand on voit mon emploi du temps, on se dit, mais comment elle fait? Parce que finalement, c'est qu'une heure par semaine. Et la semaine dernière, j'ai eu un impératif avec mon voisin qui a eu un problème, etc. Donc, c'est mon voisin qui est passé devant.
Oui, c'est l'humain d'abord.
Voilà. Et j'étais pas dans ma logique à me dire, ah ouais, mais tu vois, du coup, t'aurais dû y aller, pas y aller. Mais non, c'était la priorité.
Alors, peut-être que c'est ça aussi qu'on dit pas, c'est hiérarchiser quand même par rapport à ce qu'on se promet.
Oui.
Il y a des hiérarchies.
Oui.
Et il faut peut-être se les poser avant.
Ah oui, effectivement, il faut se les poser avant. Et d'ailleurs, dans le livre, j'invite le lecteur et la lectrice aussi à faire un point, un bilan sur ce qui est vraiment important.
Voilà,
ce qui est important, essentiel dans la vie.
Primordial.
Parce que d'abord, une bonne résolution, souvent, on ne la tient pas parce que c'est en rapport avec quelque chose qui n'est pas important. Si, clairement, je me pose une bonne résolution, mais qui ne fait pas écho à quelque chose qui est essentiel. Or, bon, on ne va pas se la raconter. Je veux dire, qu'est-ce qui est essentiel dans la vie, quoi, hein? C'est l'amour, l'amitié, la santé, la famille. Voilà, c'est ça qui est important dans la vie. Et puis, c'est ce qu'on a envie de faire réellement. Mais pas dans le faire pour avoir, le faire pour être. C'est ça qui est important. Et moi, je dis toujours, si votre bonne résolution, c'est, je ne dis pas, bon, par exemple, il y a des gens qui se disent, bon, moi, je veux changer de travail. Bon. Changer de travail, ce n'est pas assez précis. Aussi, j'aide dans le bouquin à formuler l'objectif. Comme la personne qui dit, je voudrais faire du sport. Oui, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette envie de faire du sport?
Moi, je voudrais faire du sport, voilà.
Voilà.
Mais
alors,
je sens que j'ai besoin physiquement d'en faire, mais je n'aime pas ça.
Alors
je fais quoi?
Alors justement, ce besoin physique d'en faire, il faudrait peut-être l'analyser. Est-ce que c'est un besoin parce que vous dites j'ai envie de mieux respirer, j'ai envie d'être plus tonique, je sens quand je marche, ça pourrait être plus fluide, est-ce que c'est ça? voyez,
c'est plus ça,
est-ce
ouais.
que c'est mieux se sentir dans son corps? Et là, pour le coup, mieux se sentir dans son corps, ça nécessite pas forcément, et quand vous dites le sport, j'aime pas ça, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le sport? Donc déjà, ça serait intéressant de faire le point par rapport à ça. Est-ce que c'est l'effort? Est-ce que c'est le fait de faire en groupe? Est-ce que c'est le fait de se faire mal? Est-ce que c'est ce risque-là? Est-ce que c'est le même parfois, est-ce que c'est le fait de mettre des baskets? Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas mettre les baskets. Donc déjà, rien que l'idée de mettre des baskets, c'est vraiment l'enfer.
D'ailleurs, je me débrouille à faire du sport sans baskets. Hein.
Par exemple.
Mais parce que c'est lié l'idée basket-sport, je
oui,
crois que c'est ça aussi.
Oui, voilà.
Donc on n'aime pas les baskets parce qu'on n'a pas trop envie de faire du sport.
Voilà, donc c'est se dire, bien finalement, si j'ai envie d'être mieux dans mon corps, il y a peut-être des choses qui peuvent m'apporter ce mieux-être dans mon corps et qui ne sont pas forcément en rapport avec le sport forcément très compète.
Ah, je ne vais pas faire de kung-fu, hein, ça c'est
voilà.
sûr.
Voilà, oui. Donc le kung-fu là,
non,
c'est sûr.
Non,
là c'est sûr que c'est
je pas
adapté.
Je ne rencontrerai pas là-bas.
Voilà, ça sera pas là-bas. Mais on peut avoir d'autres activités physiques. Et puis c'est pareil, il y a le sport et il y a l'activité physique. Donc l'activité physique qui, par exemple, va consister à marcher autour d'un lac, par exemple là, bon, on est à Paris. Si je vais au bois de Vincennes et que je fais le tour du lac, ou même au but de Chaumont, je fais le tour du lac. La marche, on sait que c'est quelque chose de très sain et très complet qu'on peut faire à tout âge en plus. Et c'est ça qui est génial. Et quelle que soit la situation. Parce qu'on peut avoir des pensées, on peut avoir... Ça aide beaucoup.
Voilà.
On dit souvent qu'on trouve d'ailleurs des solutions en marchant. Moi, je trouve
oui,
beaucoup
vrai.
De solutions à mes problèmes en marchant. Et on n'est pas pour autant dans le format qui est le format sportif contraignant.
Voilà,
maintenant, si c'est dehors et qu'il fait froid et qu'il pleut, bon, il va falloir peut-être trouver autre chose à faire. Voilà.
Non, mais c'est vrai que se poser les bonnes questions,
oui.
Qu'est-ce que je veux vraiment ou pas et pourquoi?
Oui, et pourquoi?
Ouais, on va faire une pause musicale.
Ah oui,
qu'on
vive
aime
la
bien.
Musique.
On
ah,
aime
oui.
bien en plus. Et puis, on se retrouve tout de suite après.
À tout de suite.
Vous écoutez La Santé Mentale en Question avec Anne Voileau.
Michel Jean-Baptiste, c'est déjà la dernière partie. Alors, on a beaucoup parlé des bonnes résolutions en action.
Oui.
Donc, je recommande aux personnes d'acheter votre livre. Hein, c'est, la, c'est le mieux. Et puis, vous êtes intéressée aussi au handicap.
Oui, oui.
Dans votre passé,
oui.
au jeune passé, parce
oui,
que vous êtes jeune.
Oui, alors en fait, c'est parti de deux choses. Ça partit de deux rencontres, comme souvent dans la vie d'ailleurs. Une première rencontre avec le parrain de mon fils, qui est d'origine galloise et qui pendant longtemps était l'importateur des taxis anglais. Et il faut savoir que le cab est un véhicule qui permet l'accès aux personnes
Absolument,
en fauteuil
totalement
avec des indicateurs pour les personnes malvoyantes, avec les rampes qui étaient rouges à une époque puis qui sont devenues jaunes après, etc. Donc ça a d'abord été cette rencontre-là avec David. Donc ça remonte à 18 ans quand même. Et puis une autre rencontre quasiment dans le même timing avec Maud Margot. Margot Bigiani, je donne son nom complet.
Bah oui, bien sûr.
Elle est partie, elle est décédée, et que j'ai rencontrée en fait sur le terrain d'une remise de handibip. De la remise d'un handibip donc qui permettait à des arceaux de pouvoir être descendus
oui,
et remontés, etc. Et en fait, Maud à l'époque voulait monter une association pour tout immobile. Pour changer le regard des personnes sur le handicap et sur les personnes en situation de handicap et de manière générale sur la situation des personnes à mobilité réduite. Et elle m'avait dit, écoute, toi, le droit, c'est ton truc. J'ai besoin d'appui. Je lui ai dit, mais attends, Maud, moi, j'y connais rien au droit de la situation de handicap. Et elle m'a dit, bah, tu vas apprendre. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée à m'intéresser beaucoup au sujet, à aider dans le cadre de son association au montage de dossiers
pour
l'accessibilité, etc. Et en 2005, avec la loi sur le, entre guillemets, en général, on dit comme ça, sur le handicap pour faire court.
L'accessibilité.
Alors que c'est sur l'accessibilité à tous pour tout. Et surtout, le volet collectivité territoriale. Et j'avais organisé la même année, en fait, un séminaire à destination des collectivités territoriales sur ces questions-là. Donc, la question du handicap et de la mobilité réduite, en général, m'intéresse beaucoup. Pas que le handicap moteur, même si j'ai été plus confrontée à la problématique du handicap moteur.
Bah, le regard, c'était sur tout le monde.
Mais c'est sur tout le monde. Comme par ailleurs, je suis quelqu'un de très, par mes origines diverses et variées, je suis une très grande métissée, toujours intéressée à la différence et au mélange des cultures différentes, etc. Et on apprend toujours énormément des personnes qui sont en situation de handicap. D'ailleurs, on parlait des bonnes résolutions tout à l'heure. Quand on voit les objectifs qu'arrivent à atteindre des personnes qui ont des freins naturels, on a des leçons à prendre. Et d'ailleurs, beaucoup de mes petits clins d'œil ou de mes astuces m'ont été inspirées par des personnes en situation de mobilité réduite, Parce que je me dis, mais c'est fabuleux.
Oui, parce qu'elles viennent au bureau, là, nous, on a 47% de personnes handicapées à Vivre FM.
Oui.
Elles mettent deux fois plus de temps que quelqu'un d'autre. Tout leur prend beaucoup plus de temps.
Oui.
Et ça n'empêche qu'elles ne s'en plaignent pas et qu'elles ne disent jamais rien.
C'est ça.
Alors nous, on relativise après.
Voilà, exactement. Et là, moi, je vois juste par rapport, de manière assez, assez égocentrée, par rapport à ma petite déchirure musculaire. Là, bon, j'ai les deux jambes prises, c'est un peu compliqué.
Ah, carrément,
tout ça.
Non, mais.
Ah oui, non, mais... c'est sympa. Et ouais. Donc, je me suis dit, bon, c'est bien aussi parce que c'est un rappel. Hein. C'est un rappel.
Qu'on ne se rend pas compte comment on est bien.
Comme on est bien, etc. Et c'est aussi extrêmement inspirant. Et je pense que là, j'avais, il y a quelques mois de ça, j'animais dans le cadre d'une école de commerce une masterclass sur la gestion du temps pour les entrepreneurs, dans le cadre d'un incubateur d'entrepreneurs d'une école de commerce. Et on était dans l'incubateur. Et dans cet incubateur, on avait un étudiant porteur de projet en situation de handicap. Donc, salle pas réellement accessible. Donc, il avait un de ses copains qu'il portait sur le dos. C'était vraiment super sympa. Ouais. Et en fait, on a échangé là-dessus, sur la gestion du temps, et on a échangé sur les bonnes résolutions. Et c'était assez fabuleux de voir... la volonté, je ne veux pas caricaturer parce
que... Non, mais oui, non. Il y a une obligation.
Voilà.
Une obligation,
voilà. Ouais. Et la capacité qu'il y a, du coup, plus forte et dont on peut s'inspirer, à anticiper les étapes et à anticiper le contexte. Ce que les personnes qui sont en situation de mobilité plus facile oublient de faire.
Ouais,
parce que ça semble tellement, nous semble tellement accessible que, hop, on ne se pose pas la question. Alors, quand on a des contraintes, on les anticipe et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre aussi à ce niveau-là. Effectivement, sur là il faut réfléchir, est-ce que c'est accessible, pas accessible, là il faut réfléchir à
par où je vais passer,
temps,
est-ce
par
que
où
je
vais
peux,
passer,
voilà.
Est-ce que je peux pour peu qu'il y ait une grève ou je ne sais quoi, il faut l'anticiper aussi, enfin voilà, il y a
alors
plein
dans
de
la
choses.
Gestion du temps, l'anticipation, oui. C'est important,
très très important, mais en même temps il faut pas que l'anticipation il faut pas que l'anticipation devienne un carcan.
Oui,
c'est des personnes
qui
ont un emploi du temps, tout est minuté, dès qu'il y a un imprévu ou dès ça sort du truc, les gens se sentent mal, etc. C'est de se dire, j'anticipe suffisamment pour savoir que je vais avoir, par exemple, une grosse charge de travail.
Pas trop de surprises.
Voilà, pas trop de surprises, mais j'intègre quand même le fait qu'il y aura des surprises. Et là, encore une fois, s'il y a un petit retard, s'il y a un truc qui ne se fait pas exactement comme on voulait, en même temps, il n'y a pas mort d'homme. Et ça, encore une fois, il faut relativiser le nombre de tensions, de réflexions que les gens s'envoient juste parce qu'il y a 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de retard, une journée de battement. C'est pas grave, hein. Je veux dire, il y a des choses plus graves que ça dans la vie.
Mais parce que quelquefois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, même si le vase est petit.
Oui.
On sait plus où on en est et ça prend des proportions énormes.
Oui. Oui, oui. Donc, c'est anticiper, mais en même temps, avec bienveillance, encore une fois, c'est se dire, bon, à partir du moment qu'on a mis en œuvre son maximum, comme je dis, voilà, si on fait son maximum, c'est déjà très bien. Et puis d'analyser effectivement ce qui n'a pas été, c'est de se dire, bah tiens, là peut-être que j'ai pas prévu de zone tampon dans mon emploi du temps. Ce qui fait que dès qu'il y a, un report ou un truc, eh bien ça, tout de suite, ça pose problème. C'est plus ça aussi au niveau de l'anticipation. Et puis, apprendre à se connaître aussi, ça c'est très très important. Son biorhythme, on n'est pas tous logés à la même enseigne. On a des personnes qui, on dit toujours, qui sont plus du matin, plus du soir,
on ne
sait quoi. Et c'est une réalité. Et puis, on a des activités aussi pour lesquelles on va être très performant plus le matin que l'après-midi ou plus le soir qu'entre midi et deux, je ne sais quoi. Et c'est de repérer ça en se disant, tiens, c'est bizarre. Ben, moi, je me suis rendu compte comme ça, par exemple, que pour écrire, même si j'écris tout le temps, toute la journée, partout, dans le train, dans le métro, n'importe où, mais quand même, j'avais un créneau et que mon créneau vraiment horaire, là où je suis la plus productive, c'est plutôt le soir.
Moi aussi.
Voilà. Mmh. Alors que j'ai des personnes
c'est pas du tout le matin,
qui sont très, 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 très matinales. Ouais. Bonjour à maman au passage, qui alors on fait les 3-8 toutes
c'est
les
pour
deux.
Ça que je pense qu'il
elle
y a quand on dit c'est miraculeux de se lever une heure plus tôt et tout, faut vraiment s'écouter. Quand même. Il n'y a pas un truc miracle qui fait que tout le monde va se lever une heure plus tôt.
Il faut le tester. À la limite, si quelqu'un vous dit, tu devrais te lever une heure ou peut-être même une demi-heure, peut-être même juste 15 minutes plus tôt, et ça va vous apporter quelque chose. Moi, si la personne me dit, tu devrais faire ça, je vais essayer. Je vais voir si ça me correspond. Peut-être que je vais avoir la très belle surprise de me dire, mais attends, ce truc, c'est génial. Ça a révolutionné ma vie, mon emploi du temps, le fait d'avoir ces 15 minutes de plus ou ces 20 minutes de plus. Et peut-être qu'à l'inverse, je vais me dire non, peut-être que la révolution, ce serait peut-être de se coucher un petit peu plus tôt pour récupérer peut-être mieux.
Voilà.
La révolution, c'est peut-être de se dire, je vais prendre 5 minutes, mais vraiment 5 minutes de pause où je ne suis pas en train de surfer sur mon smartphone, où je ne suis pas en train de cogiter. Ça, ce n'est pas évident. Hein. Ça, ça s'apprend. Waouh, wow, ouais. Là, moi, je suis en apprentissage hein, total. Ouais, ouais. Oui, ça peut être ça. Ça peut être... Voilà, c'est de se dire, on va se déconnecter 5 minutes, mais finalement, on va faire un petit peu comme son... Je reprends l'exemple du téléphone portable. On va faire un peu comme le téléphone portable. C'est-à-dire qu'il est super performant quand il a rechargé ses batteries. Mmh. Et donc, c'est de savoir quel type de batterie on est. Est-ce qu'on est une batterie qui a besoin d'être rechargée, d'être complètement déchargée pour être rechargée après?
Oui, il y en a.
Il y en a, ouais. Voilà. Ou bien est-ce qu'on est sur de la recharge au fur et à mesure? Et puis, c'est de se dire, bah, finalement, je vais avoir rechargé 10 minutes. Mais ces 10 minutes-là, comme des personnes qui arrivent, j'admire beaucoup parce que moi, je n'y arrive pas, à faire des siestes, des micro-siestes qui sont super réparatrices.
Je ne peux pas, oui. 10 minutes, oui.
Ah, moi, je n'y arrive pas. Bon, mais je vais essayer. Enfin, je vais réessayer. Bon,
parce que je pense qu'on a chacun nos rythmes. Moi, si je suis fatiguée, j'ai 1h20 exactement, pas 22, pas 25, 1h20. Bon. Et 1h20, je suis très bien. Alors, je ne le fais pas tous les jours, évidemment, je ne peux pas. Mais j'ai remarqué que si je fais une demi-heure, j'ai mal à la tête. 1h20 et je me réveille toute seule. Mais vraiment à 1h20. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est un rythme. Donc je pense que vous avez raison, c'est très important de dire, de savoir s'écouter sans écouter tout ce qu'on nous dit tout autour, tout le temps.
Oui, il faut s'inspirer, c'est-à-dire qu'il faut garder quand même son libre arbitre, comme on dit.
Oui, bah
Et encore une fois, ne pas se sentir obligé, que ce soit, on en parlait tout à l'heure pour les bonnes résolutions, en se disant, un tel m'a dit que ce serait bien pour moi d'eux, ou j'arrive à tel âge, donc normalement je devrais faire ça.
Voilà.
Ou enfin, bon, non, mais je veux dire, c'est qu'est-ce qui nous correspond vraiment, qu'est-ce qui a du sens. Par contre, rester très curieux et très open, très ouvert. Parce qu'on peut avoir des suggestions d'autres gens autour. Là, bon, ça fait quand même... Vous êtes la troisième personne, je ne crois pas au hasard, qui me dit que le tai chi, c'est peut-être fait pour moi. Donc, je vais peut-être aller essayer le tai chi,
finalement. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, en plus.
Voilà, je ne crois pas qu'il y a de hasard.
Non, parce que c'est un sport extraordinaire. Moi, j'ai vu sur la plage une personne qui était un professeur et qui a fait tous ses mouvements lentement pendant 1 heure. C'était extraordinaire.
C'est beau.
Alors, lui, il volait.
Ah.
Mais il volait pas de la même façon. Voilà. Mais c'était, moi, ça m'a, je me suis dit, c'est fabuleux. Et il y avait un plaisir en même temps. Il y avait il avait un plaisir qui redonnait aux gens qui le regardaient.
Ah, génial.
Non, j'ai volé.
J'ai hâte dans 3 semaines d'essayer parce que je vais réessayer mon cours de kung fu. Et en parallèle, j'ai prévu le tai chi, le qigong.
Je pense que ça vous irait bien.
Il n'y a pas de hasard. Hein. Si vous êtes la troisième personne qui m'en parle.
Dans les bonnes résolutions, pour revenir à votre livre, vous pensez qu'on peut mener 3 bonnes résolutions de front?
Alors ça dépend. En fait, ça dépend des bonnes résolutions. On peut avoir comme bonne résolution des bonnes résolutions très ambitieuses et très imposantes qui relèvent du changement complet, du changement de vie. Par exemple, quelqu'un qui a pour objectif de se reconvertir complètement, de changer totalement de voie, totalement de métier.
Oui, là,
c'est quand même quelque chose qui est très, très prenant. Après, on a des bonnes résolutions qui relèvent plutôt des petites choses. Alors, ça peut être de se dire, je parlais tout à l'heure de faire son jogging ou de marcher autour du bois de Vincennes. Ça peut être de se dire, moi, j'ai toujours voulu faire de la barque au bois de Vincennes. C'est un souhait qui correspond à un objectif plaisir, petit, accessible. Bon, moi, c'est prévu, ça ne se fera pas là
cet hiver,
ça se fera au printemps. Mais voilà. Donc,
et vous, avec le kung-fu, c'était quoi?
en fait, moi, avec le kung-fu, encore une fois, c'était la démarche du test. Donc, j'ai fait le test. Maintenant, il n'est pas forcément aussi concluant que ça, parce que je ne l'ai pas fait forcément. En fait, je l'ai fait presque à l'aveugle. Puisque je pensais être dans un cours débutant et que c'était exceptionnel.
C'est le professeur qui n'était pas très bon quand même.
Monsieur, alors, non,
vous demander.
Je pense qu'il y a eu un débordement. Voilà. Ils étaient deux au lieu d'être
parce
un.
Parce que quand on rentre dans un cours, ils vous demandent à quel niveau vous êtes et tout quand même. C'est la moindre des choses.
Voilà, je pense que il y a eu un petit débordement. Donc il y a ça aussi, effectivement, dans le questionnement, quand on veut tester quoi que ce soit. Ça peut être, par exemple, j'ai envie de me mettre à jouer du piano ou de la trompette. C'est de se dire, ne pas s'arrêter à la première expérience. C'est de se dire, peut-être que c'est une expérience qui ne me correspond pas parce qu'elle ne me correspond pas à moi en tant que personne. Peut-être que c'est l'interlocuteur que j'ai eu. Et par exemple, il y a des personnes qui me disent, moi, je voulais me mettre à faire de la natation, mais la piscine, là, c'était très désagréable et très bruyant. Alors, c'est peut-être ça le vrai problème. C'est peut-être pas le problème de nager. Alors qu'il y a des personnes qui n'aiment pas nager et d'autres qui, finalement, n'aiment pas l'eau ça mouille. Voilà, donc déjà, c'est pas bon. Et puis d'autres, c'est juste peut-être changer de piscine. Voilà. Bah, écoutez, ou aller aux Seychelles.
Merci beaucoup. Bah, ça, moi, alors, je suis à fond pour, mais c'est une fois dans l'année et encore, pas tous les
c'est
ans.
C'est ça, et pas forcément facile, ni financièrement, ouais. ni en termes de logistique.
Bah, merci beaucoup. Puis vous reviendrez bah, pour nous
avec
raconter
plaisir.
Un peu après les sports que vous avez choisis. Et puis le prochain livre. Là, c'est le 10e, oui. Le 11e livre.
Oui,
il est
oui.
en préparation.
Oui, il va sortir en fait, si tout se passe bien, au mois de mai.
Et ça sera sûr.
Et ce sera Libérez-vous de la pression au travail.
Oh, bah ça, très bien. Alors, on se revoit en juin ou en mai.
Avec
merci
plaisir.
Beaucoup.
Au revoir.
Vivre FM, podcast.